texte, on s'attendrait, comme vous l'avez entendu vous-même, Haya Yehuda le Kodesh, au masculin. Mais le verset porte Haïta Yehuda le Kodesh au féminin. Je traduis, lorsque le mot de Yehuda désigne la personne de Judas, fils de Jacob, on s'attend à ce que le verbe soit au masculin. Judas, lui, est devenu celui qui est consacré, le Kodesh. Mais ici, le féminin renvoie à Malchut Yehuda, la royauté de Juda, le royaume de Juda. C'est le verset pour Juda. Spécificité de la consécration d'Israël par sa dimension spirituelle et qui est, comme nous disons en hébreu, meyuchedet, il faudra employer un terme un peu plus fort que spécifique, il n'y a aucune analogie, quelles que soient d'ailleurs les rivalités, les prétentions de rivalité que l'histoire a déployées par rapport à cette vocation spirituelle d'Israël, et ce sera le sujet de demain soir, de la controverse avec la doctrine de la messianité chrétienne qui réclame précisément cette identité spirituelle d'Israël. Le verset qui concerne Joseph, quant à lui, Yosef, vous l'avez juste à la suite, vers la fin de la quatrième ligne, « Ohel Shiken Ba'adam ». Le Rav nous rappelle cette source du Midrash qui dit que Israël, en tant que Joseph, a planté sa tente chez l'homme en général, c'est-à-dire dans l'humanité extérieure. Je pense que c'est suffisamment clair. Allons pour maintenant avancer. La thèse que le Rav développe, c'est que ces deux fonctions de la vocation d'Israël en tant que peuple et qui correspondent à l'échelle individuelle aux deux identités humaines, l'identité spirituelle et l'identité temporelle, ces deux fonctions sont toutes les deux légitimes, mais qu'il y a le grand risque qu'elles n'arrivent pas à se reconnaître l'une l'autre dans une solidarité indispensable, et lorsqu'elles ne se reconnaissent pas, elles entrent en conflit. Et vous devinez très rapidement à quel point c'est là l'analyse, je dirais même presque à l'échelle microscopique et pas seulement macroscopique, des situations de rupture, de conflit, de fracture, de marloquette, de controverse à l'intérieur de la société juive et en particulier de la société israélienne. D'une certaine manière, quand il faut être très prudent pour les adjectifs qui s'emploient maintenant, on peut dire que ce texte, dans sa récapitulation même des sources antérieures, mais surtout dans le moment où il a été formulé, dans le moment de notre histoire où il a été formulé, est un texte assez prophétique, en même temps qu'explicatif. Et donc le thème qui va être développé, c'est ce qui est souhaitable, c'est que non seulement ces deux forces se reconnaissent et donc ne luttent pas entre elles, mais collaborent et à la limite s'identifient. Alors l'identité d'Israël, telle qu'en parlent les prophètes pour la fin des temps de l'exil et l'avènement des temps messianiques, se dévoile enfin. Il y a toute une série d'étapes dans ce temps de passage de Mahavar entre le stade qui a duré depuis le schisme d'après le roi Salomon, entre l'État d'Israël du Nord, dirigé par la tribu d'Ephraïm, c'est-à-dire Joseph, et qui, comme vous le savez, s'est perdu. J'ai parlé hier après-midi des 10 tribus perdues, les Nitrés Israël, mais nous y reviendrons aussi. Et d'autre part, le royaume de Juda. Il y a un très long temps qui s'est passé depuis cette rupture, cette cassure entre ces deux forces de l'identité Israël. L'une qui s'appelle Joseph, Ephraïm, l'autre qui s'appelle Juda. Et donc, nous sommes historiquement à un stade de remise en question de cette problématique de l'unité de l'identité d'Israël. Et donc, on peut très bien comprendre de façon évidente qu'il y a des différents stades. Et sans doute, nous sommes déjà à un stade de ce problème où ces deux forces sont déjà capables de se diagnostiquer, elles sont en présence, sinon encore de se reconnaître vraiment. Vous souvenez, à travers la lecture des textes bibliques, de l'histoire de Joseph et de Juda, pendant très longtemps, Joseph avait déjà reconnu ses frères, à la tête desquels il y avait Juda. Et ce n'est qu'à la fin que Juda et ses frères reconnaissent Joseph. Vous vous rappelez de ça? Nous aurons d'ailleurs à nous y référer dans cette typologie sur laquelle se base le Rav de façon très précise. Vous vous rappelez du principe qu'il avait cité en fin de première page, Maaseh Avot Siman Labanim. ce qui est arrivé dans le comportement de l'histoire des pères, et ici les avot sont les patriarches, Siman Avanim, c'est un signe de ce qui arrive dans l'histoire des fils en tant que fils. Et là, je voudrais simplement une parenthèse très rapide. Les patriarches, les avot, ont vécu la mise à l'épreuve de l'identité d'Israël à l'échelle individuelle. Et vous avez remarqué, chaque fois que je parle des pères, ça s'arrête. Et... Bon, je continue. Alors que les fils, les bnei Israël, les enfants d'Israël, en tant que collectivité, vont revivre cette même mise à l'épreuve d'identité, mais au niveau de la collectivité. Je pense qu'il est suffisamment clair de percevoir cette différence de niveau. Et c'est l'histoire des patriarches Abraham, Isaac et Jacob que la communauté, la collectivité d'Israël vit dans une remise en jeu de cette même identité, mais à l'échelle d'une société, et plus seulement à l'échelle de l'individu. Il ne faut donc pas s'étonner, si on comprend bien ce principe de la typologie biblique, il ne faut donc pas s'étonner de ce que ces mises en jeu de problématiques d'identité que nous apprenons dans le récit biblique à l'échelle de l'histoire des patriarches se retrouvent sous forme de tendance dans la société juive en tant que telle, et en particulier de notre temps, la société d'Israël sort, procède de sa propre sortie d'Égypte contemporaine, si j'ose dire. Vous savez à quel point tout ceci est en controverse dans le monde juif contemporain, et que les affrontements, le plus souvent courtois, sont très violents, mais par définition, nous allons suivre l'enseignement du Rav Kook, et lui en particulier, de la manière la plus claire. Je pense qu'il nous reste encore 3 séances, tout le temps, jusqu'à vendredi matin y compris, de reprendre ceci sous forme de discussion et de remise en problématique. Mais pour le moment, il faut d'abord savoir ce que le Rav dit exactement dans la cohérence propre de son enseignement. Donc, j'espère que j'ai bien introduit la controverse éventuelle. Alors nous abordons le texte. Vehine, Tachlit Behirat Malchut Bet David. L'abréviation Bet Yushdal. Bet Yushdal. J'avais dans l'abrégé. Ça veut dire Bet David, la maison de David, dans le sens de la maison royale de David. Alors, Réhiné, et voici, fin de la quatrième ligne, okay? Réhiné, et voici, Tachlit Behirat Malchut Bet David, la finalité de l'élection de la royauté de la maison de David, était que ces deux forces soient unifiées en une seule. D'ailleurs, là, nous avons une définition très importante de l'identité de la royauté selon David, c'est-à-dire selon Juda. Pas seulement la vocation spirituelle, mais les deux vocations liées et unifiées. Lorsque la vocation spirituelle est coupée de la vocation temporelle, alors il y a Malchut Yehuda, mais ce n'est pas Malchut Bet David, la royauté messianique vraiment. La royauté messianique vraiment s'appelle David parce que lui en particulier, ça a continué avec son fils Salomon et ça s'arrêtait après, a vécu, a réalisé, a exprimé cette unité des deux forces. Après le roi Salomon, il y a le schisme. Et les rois de Juda n'ont plus que la représentativité d'Israël en tant que religion, comme nous disons aujourd'hui, en tant que vie spirituelle. Alors que les rois d'Israël, du royaume du Nord, ont la représentativité d'Israël en tant que nation, insérée dans l'histoire de la politique de l'universel humain. Mais il y a ce cas privilégié des deux générations, David et Salomon, qui s'appelle Beth David, et où l'identité de ces deux forces sont unies. C'est pourquoi, en fin d'étude, hier matin, je vous avais rappelé un enseignement de la Gemara, repris surtout dans la Kabbalah, mais la source est dans la Gemara, que le roi David, personnellement, était lui-même Mashiach ben Yosef. C'était la suite d'une des questions qui a été posée, et que nous attendons le deuxième stade du fils de David, ben David. C'est clair au niveau du vocabulaire. Alors je reprends donc la phrase. Veine tachlit behirat malchut ben David. Or, voici que la finalité, l'objectif, le but, tachlit, Behirat Malchut Be David, de l'élection, qui est le propre de la royauté de la maison de David, Haya, était, Sheiyu Shtei HaKochot Nichlalim Be'Echad, que ces deux forces, que ces deux capacités, vocations, et nous avons déjà compris à quel point elles sont, de façon brute, exclusives l'une de l'autre. Comment être ce même homme voué totalement à la vie temporelle et totalement à la vie spirituelle? C'est la grande difficulté de l'histoire humaine. Et vous voyez que nous abordons là une première définition d'identité messianique. L'homme messianique est celui qui est capable d'être totalement homme de l'esprit et homme de la matière. Et il faut nous refamiliariser avec ces évidences hébraïques qui ont éclaté à travers les catégories dualistes des civilisations que nous avons traversées. Mais il faut d'abord découvrir la difficulté. Il est vrai que c'est la difficulté principale à laquelle l'identité humaine en général est affrontée. Comment être l'homme total ? Comment être l'homme un, l'homme authentique tel que le projet du Créateur qui est le Dieu unique a voulu qu'il soit. Et nous sommes en cours d'engendrement dans cette tentative d'engendrer cet homme messianique qui serait l'homme vraiment. Jusque-là, nous sommes ou l'un ou l'autre, et en conflit l'un et l'autre. Ce conflit nous est raconté dans la Bible déjà à travers Caïn et Abel, pour ceux qui avaient suivi les séminaires précédents, vous en souvenez. Il reprend à travers Jacob et Ésaü. À l'intérieur de la famille de Jacob, il est en tension d'identité entre Joseph et Judas, et c'est à la fin du récit de la Genèse que la reconnaissance se fait, et que l'unité se fait, et que ce problème est résolu. Alors, le livre de Bréchit s'achève, le livre de la Genèse s'achève, le temps des pères est achevé, à travers leurs deux fils qui ont récapitulé en eux ce conflit prodigieux, et ont fini par le résoudre. Israël est fondé. Mais cette identité messianique d'Israël était tellement vulnérable en elle-même, parce que c'est aussi corollaire de l'état général de la civilisation humaine, qu'elle va se défaire. Et elle va se défaire après le schisme, après le temps du roi Salomon. Vous vous rappelez, Roboam d'un côté, Jéroboam de l'autre, nous allons y revenir en détail, et elle est en attente jusqu'au temps de la fin des temps d'exil, que nous appelons donc simultanément le début des temps messianiques. Donc il est tout à fait normal que tous ces conflits, tensions, etc., arrivent au paroxysme dans le temps que nous vivons. Et nous aurons par la suite à identifier, en termes plus précis du vocabulaire contemporain, où sont ces forces qui s'appellent Joseph et qui s'appellent Judas, et qui sont en problématique de tension jusqu'à l'unité ultime, et comme vous le savez, au sein d'une coalition de rivalité et d'intérêts hostiles, pratiquement de l'univers entier. Je schématise beaucoup, je généralise, on est obligé de voir les choses comme elles. Et si nous n'avions pas eu, si j'ose dire, l'enseignement du Rav Kook, qui a cristallisé les connaissances que tous avaient, mais auxquelles il manquait, s'il y a la structure, le plan, je sais pas comment dire ça, le schéma, okay, c'est lui qui nous l'a donné. Alors, ceux qui entendent ce schéma Israël suivent, ceux qui n'entendent pas sont très malheureux parce qu'ils n'entendent pas, tout simplement. Alors, je continue. Vermbrouz, c'est ça. Velodai, je suis vers la fin de la ligne 5. Velodai, Sheloyehu, Sotrim, Zedze. Et il ne suffit pas que ces deux forces ne se contredisent pas. Je crois qu'il faudrait dire ne se contrarient pas. C'est des paroles qui se contredisent, des forces contrarient. Que ces deux forces ne se contrarient pas, Sotrim Zedze, Kiim, mais Od, plus encore, Ozrim Zelazé, cède l'une l'autre. Vermruzal, dans Midrash, et nos maîtres ont enseigné dans le Midrash, chez Nehemar Bedavid Admoni, que le texte, vous avez toutes les références en bas, c'est pas la peine de prendre du temps pour l'érudition nécessaire, mais vous avez le temps après. Le texte de la Bible parle de David en disant qu'il était Admoni. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je mette ça au tableau. Admoni, ça veut dire roux. C'est un mot poétique pour dire roux. Il faudrait dire, comme on dit en argot israélien, djinn-djinn. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire joliment roux. C'est très joli quand c'est joli. Et, c'est ça? Poil de carotte, mais avec peut-être un accent affectueux. Et or, ce mot de Admoni, roux, je vais analyser assez rapidement, mais suffisamment, je pense, avait été déjà employé pour Ésaü. Lorsqu'Ésaü est né, il est né roux. Mais sans doute, il y a là deux rousseurs, si j'ose dire, très différentes. L'un est rouge, complètement, rouge, comme le sang. Mais l'autre est roux, et il y a une différence qu'on va nous expliquer. Or, cette couleur rouge, c'est la couleur de l'homme, d'après l'enseignement de la Bible. Ça doit faire plaisir aux Indiens, je suppose, d'Amérique, bien sûr, et de savoir que la Torah, le vocabulaire de la prophétie, a employé pour dire l'homme, Adam, un mot qui d'autre part, je dis bien d'autre part, se rattache à la racine qui signifie rouge. Rouge, je m'excuse, roux, dans le sens que la transparence de la peau faisait apparaître la couleur du sang. Et la racine du mot de Adam, c'est pas la racine Adam, c'est la racine les Damot. Parce que le geste de l'identité humaine consiste à être capable d'imiter un projet, imiter, imitation, okay? Les Damot, ressembler à. Okay? Ça vous renvoie à des catégories bibliques très précises, mais non. Donc, je ne sais pas si tu te souviens des cours du Père Jousse, non. Que l'homme est cette manière d'être vivant qui est capable d'acquérir par comportement d'imitation l'idée que je voudrais dire, c'est capable de réaliser à travers un comportement d'imitation un certain modèle idéal qui est le projet du Créateur pour lui. L'animal répète les gestes qui sont ses gestes instinctifs de façon sempiternelle, alors que l'homme apprend. L'homme se transforme à travers cette capacité de l'imitation. Nous avons reçu il y a 40 ans, plus, je ne dis pas, un enseignement d'un très grand homme qui était un père jésuite, le père Jousse, et qui avait consacré sa vie à déchiffrer les structures gestuelles des formulations de la Mishnah, de la Braïta aussi. Et il donnait un cours à la rue Serpente, à l'école qui s'appelait l'école d'anthropologie. Il avait intitulé son cours « Anthropologie du geste ». Des livres ont paru, d'ailleurs. Vous pouvez peut-être trouver, Régine, vous donnerez les filières. Je dois vous dire, d'ailleurs, que c'est tout un moment de ma vie d'étudiant qui me restait avec énormément d'émotion, parce que c'était un enseignement très dur à suivre. Parce que, d'autre part, le père Jousse était très anti-juif. Alors, père, tu t'en souviens? Ah, il n'y avait pas de cours où on n'était pas égratigné. Alors je crois que j'ai tenu le coup 4 fois ou 5 fois. Hein. Et après, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, il m'appelait mon petit rabbin, comme ça. Et alors, j'ai dit, écoutez, je vous aime beaucoup, mais je ne supporte pas. Alors je lirai vos livres. C'est bon, on a eu la chance et le privilège d'avoir comme professeur à l'école d'Orsay une de ses principales élèves, Mademoiselle Talencier, pour la citer, et qui donnait un cours d'anthropologie du geste et à travers qui beaucoup de choses ont passé. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, oui. C'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai entendu en langage universitaire, parce que le père Jousse était aussi d'autre part un grand universitaire, expliquer, il ne l'a jamais dit comme ça, mais expliquer qu'est-ce que ça veut dire Adam, la capacité de gestualiser à travers l'imitation. Et vous savez que c'est un thème du Midrash, qu'a repris d'ailleurs la tradition chrétienne à sa manière, c'est que tout se passe comme si nous sommes en apprentissage d'imitation des attributs du Créateur de telle sorte de devenir la créature authentique. Alors, la capacité d'être Adam, c'est de pouvoir imiter un certain modèle qui représente le projet du Créateur. Et vous devinez que ce modèle, c'est l'identité messianique. Que par imitation, nous arrivons, à travers un certain conditionnement d'apprentissage, à devenir l'homme que le Créateur avait voulu créer. Et là encore, nous avons un exemple du caractère extrêmement délicat du maniement du vocabulaire français pour parler de ces choses, parce que le vocabulaire français véhicule plutôt les intuitions chrétiennes. Mais il me suffit de vous citer l'expression « l'imitation du Seigneur ». Pas la limitation, mais l'imitation. Le Seigneur étant l'identité hébraïque, comme nous le verrons le mercredi soir, demain soir. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors on disait de David, dans le verset dont vous avez la référence, qu'il est né lui aussi Admoni, roux. Et rappelez-vous, Ésaü, l'antagoniste de Jacob, lui était vraiment franchement roux. Et dans la symbolique, vous mettez le mot symbolique entre guillemets, hébraïque, la couleur rouge exprime, symbolise, si vous voulez, la qualité, la mida, la vertu, à la limite, de rigueur absolue, de strictité rigoureuse de la justice absolue, dont la limite catastrophique est de transformer l'exigence de moralité en soumission à la légalité, à la limite, vous avez le droit romain, se substituant à la morale. Ça ne veut pas dire que le droit est forcément immoral, mais c'est une toute autre perspective de la règle stricte en tant que telle, et qui finalement va substituer le légal au moral. C'est clair, okay. Et ce n'est pas pour rien donc que la tradition talmudique, bien sûr la Kabbalah beaucoup plus abondamment, a identifié l'incarnation dans l'histoire humaine des tendances d'Ésaü dans la civilisation romaine, d'ailleurs dans ces deux étapes, la Rome païenne impériale et ensuite la Rome chrétienne. Et dans ce fait historique massif, que finalement c'est Rome qui dispute à Jérusalem l'identité d'Israël à travers l'histoire. Et là nous avons de nouveau ce thème de typologie, Ésaü se prétend face à Jacob, l'aîné qui doit recevoir le nom d'Israël. Vous voyez donc à quel point nous, on risque d'être pris de vertige, parce que finalement ça veut dire que l'histoire est d'une cohérence absolue, de manière telle qu'il vaut mieux ne pas trop y penser, sauf qu'on est obligé parce qu'on étudie. Alors je reviens. Et quelle différence y a-t-il entre le fait d'être roux, rouge, c'est-à-dire cette rigueur de la raison d'État, la manière d'être roi d'Ésaü, c'est finalement la pourpre royale, qui est en même temps d'ailleurs la pourpre romaine, je crois qu'on dit la pourpre cardinaliste, mais je vous le dis. La symbolique est importante, mais c'est surtout l'idée que cela représente entre Ésaü et Jacob. Ça veut dire, lorsque Ésaü est roi, c'est rouge, absolu, la rigueur absolue. Je reprends la formule parce que je crois qu'il est important de la mettre en évidence. La légalité se substitue à la moralité. Le roi, c'est moi. La loi, c'est moi. C'est ça le roi, selon Ésaü. Je vous lirai tout à l'heure, d'ailleurs, un texte du Rav Kook qui illustre ce point précis. Et un autre texte, je veux dire. Et la manière dont David sera roi, il est aussi roux. Parce que le principe de la royauté, c'est la loi. Et le roi est chargé d'imposer la loi de la société. Mais il y a une autre manière. Il va être roux gentil, je ne sais pas comment dire. Très exactement, roux avec des beaux yeux. Alors que roux avec un regard dur, froid, vide, ça c'est Ésaü. Vous avez compris la différence? C'est pas? Oui, j'allais dire, moi je me réfère toujours à cet événement historique qui me semble être lourd de signification, le Saint-Empire romain-germanique, et l'un et l'autre. C'est-à-dire finalement, ce que je vous ai raconté hier à propos de Rommel, eh bien, le fait que nous ayons vécu cela dans les temps de l'apparition de l'État d'Israël, c'est-à-dire, et enfin je ne suis pas rentré dans les détails, ça va beaucoup plus loin dans les détails, c'est extrêmement significatif. Le 2000 ans après, cette coalition de Rome et de la Germanie soit réapparue dans un temps caractéristique, à la fois vulnérable et très important de l'histoire du peuple juif. Je pense que c'est clair. Alors, bien sûr, à travers notre familiarité culturelle, nous sommes très peu familiers à ces évidences. Pour qui pense la Bible en hébreu, ce sont des choses qui vont de soi, qu'on apprend à l'âge de 3 ans et demi au Talmud Torah, mais nous sommes une telle génération d'ignorants qu'il nous faut les plus grands des plus grands pour nous expliquer l'alphabet de notre propre identité. Vous comprenez à peu près le problème. Alors, nous allons entrer dans cette précision. Quelle est la différence entre la manière d'Ésaü d'être admoni, roux, et la manière de David d'être admoni? Ça veut dire, quelle est la différence dans ces deux manières d'être roi? Et vous reprenez la phrase, Ve'amruzal, et nos maîtres ont enseigné, Bamidrash, dans le Midrash, Sheneemar be David Admoni. Il a été dit de David qu'il était roux, Admoni. Kemo Sheneemar be Esav, comme cela a été dit à propos d'Ésaü. Et là, mais il y a quelque chose de différent. Shenosaf bo vetov enaim. Et je vous ai dit tout à l'heure des beaux yeux, mais le mot hébreu c'est des bons, tov, l'œil bon. Comment on peut dire le regard bienveillant? C'est-à-dire, un roi est roux, bon, mais il peut avoir ou le regard dur ou le regard bienveillant. Et ça va être expliqué tout de suite. Umidat Sanhedrin Horeg. Lorsqu'il doit condamner quelqu'un à mort, Horeg, c'est Midat Sanhedrin, après avis du tribunal. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, vous voyez la grande différence de l'homme de l'État. L'homme de l'État, selon Ésaü, applique la rigueur de la légalité et c'est lui qui décide. Alors que David, en tant que roi, ne peut être ce qu'il doit être jusqu'au bout, lorsque la raison d'État le réclame, qu'après avis du tribunal. Midarat Sanhedrin Horeg, et non pas Midarat Atmo, et non pas par sa propre décision. Je pense que vous percevez l'importance considérable de cette différence. Ça veut dire que la véritable instance politique suprême, c'est l'instance juridique, et non pas l'instance gouvernementale. Et vous savez très bien à quel point ça ressemble dans le fonctionnement de la société israélienne, au point que, dans les temps contemporains, tout le monde s'étonne de cela. Les juges sont plus forts que les ministres qui les nomment. Vous avez compris le... C'est-à-dire, ça va dans le sens de... Et tout le monde a été étonné, le Varadat Hakira, comment vous appelez ça, la commission d'enquête. Ça va dans le sens de cette définition. Et encore une fois, je crois qu'il faut dire, c'est un problème d'identité, et non pas un problème d'idéologie. Ça veut dire, je vous garantis que le gouvernement israélien ne pense pas à tout ça quand il fonctionne comme ça. Seulement, c'est sa manière d'être, parce que c'est ça un juge. Je ne sais pas comment vous voulez. Et ça se dévoile après 2000. Je continue. Kibbutz, le rassemblement, Hagvura, à Homri, de la vaillance matérielle, Vechola Talouiba, et tout ce qui se rattache à elle. Les Tokef, qu'est-ce que vous avez comme lettre après le Haïm? Amu Mamlacha, c'est ça? Oui. Les Tokef, Amu Mamlacha, Gdola Veadira Rabati Bagoy. Dans l'impétuosité d'un peuple et d'une royauté grande et, à dire, vaillante, grande parmi les nations, le temps de David et de Salomon, c'était le temps de la grande royauté hébraïque qui faisait trembler les empires. Donc, c'était clair. D'ailleurs, ça recommence. Et alors, kibbutz, ça veut dire le rassemblement en même temps de, premièrement, cette vaillance matérielle, avec tout ce qui se rattache. Haïm, avec, à Ilouya Rouchani, l'excellence de l'élévation spirituelle, à Yoter Marom Bekadosh, la plus élevée et sainte, c'est cette unité-là que représente l'identité de David en tant que roi. Et voyez donc, je reprends le schéma. Nous avons deux éléments. Cela peut être des rois d'Éphraïm. Ça veut dire le roi de la société humaine ne s'occupant que des affaires politiques, des affaires de l'État, à travers tous les ministères de l'organisation du corps de la nation. Ça peut être les rois de Juda. Ça veut dire un roi qui, à la limite, serait roi en tant que chef religieux. Mais il y a, au-delà des deux, l'unité de ces deux fonctions royales, et qui est la fonction royale de la maison de David, l'identité bête David. Là, il y a unité de ces deux forces. Et cela n'a existé que trois fois dans l'histoire, avec Moïse dans la génération du désert, Bayi, Bishurun, Meler. Moïse était à la fois l'un et l'autre, mais dans un temps très très particulier, la génération du désert. David et Salomon. Et après Salomon, ça a éclaté. C'est clair, vous voyez bien donc quel est notre référent dans cette définition. Veloulé chez Garmou Avonot. Et s'il n'était pas arrivé que les fautes ont causé cet éclatement auquel il va être fait allusion, et Israël m'a assumé Malchut de David, et qu'Israël a méprisé, a rejeté ce type de royauté qui s'appelle Beth David, Ad Shenechle, Shenechelka Auma, jusqu'à ce que la nation se soit divisée en deux, séparée. Nechelka. J'ai compris le mot. Aseret HaShvatim, les 10 tribus, chez Ephraim, que Ephraim, chez Ukoach Yosef Bifne Atzmo, qui est la force de Joseph en tant que telle, pour elle-même. Donc nous avons, après cet éclatement, Ephraim d'un côté, avec les 10 tribus, et Yehuda Bifne Atzmo, et Judas pour lui-même. C'est-à-dire, tout de suite, nous sommes avertis qu'après cette division, cet éclatement, ni l'un ni l'autre des deux royaumes ne peuvent tenir le coup dans l'histoire. Le royaume du Nord, purement temporel, Le royaume du Sud, avec Jérusalem comme capitale purement spirituelle, aujourd'hui ce serait plutôt Bnei Brak. Ni l'un ni l'autre ne peuvent tenir, et il va l'expliquer pourquoi. Pendant un certain temps, les prophètes qui ont accompagné ceci, ont espéré, et ça va nous être cité dans beaucoup de versets, que la réunification se fasse. Mais le temps a fait qu'au contraire, l'éclatement, l'atomisation de ces forces s'est de plus en plus accentuée, ce qui fait qu'en récapitulant déjà très schématiquement, vous avez aujourd'hui ces deux types de juifs, l'un qui est complètement coupé de tout ce qui est judaïsme comme Torah, et qui est cependant pas n'importe quel homme parmi les nations, le juif. L'autre qui est le juif religieux, à tel point il est religieux qu'on se demande en quoi il est juif, puisqu'il est surtout religieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pousse un peu les choses à la limite, n'oubliez pas que j'ai une kippa. Okay? Et c'est les deux représentants à la limite de Joseph d'un côté et Judas de l'autre. Et alors que toute cette formulation de l'espérance et de la foi juive, à travers des lectures de siècles et de millénaires que l'un c'est l'autre, nous n'arrivons plus à le voir avec nos yeux, à le comprendre avec notre raison, alors que le texte dit l'un c'est l'autre, un c'est Joseph, l'autre c'est Judas, et que c'est ça Israël. Est-ce que c'est clair la difficile problématique que le Rav est en train de nous expliquer? Alors je continue. J'étais arrivé là. Bihuda, Bifne, Atzmo. Ça se trouve. Je reprends la phrase. Israël, Maasou, Bemalchut, Bet David. Les fautes ont fait que le résultat était qu'Israël a méprisé la royauté de la maison de David. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, la conséquence a été que la nation s'est coupée en deux. Aseret Hashvatim chez Ephraim, chez Ukuar Yosef Bifne Atzmo. Les 10 tribus que Ephraim, qui est lui la force de Joseph pour elle-même, Bifne Atzmo, vous avez en abrégé. Vehuda Bifne Atzmo et Judas pour lui-même. Hayaha Kol Meuchad de Koachechad, s'il n'y avait pas eu cet éclatement, tout aurait été uni en une force une. À l'idée et Yehuda par littéralement le bois de Juda, la maison, l'arbre de Juda. Ça nous réfère à un passage des prophètes dont vous avez la référence, que lorsque le schisme a eu lieu, le prophète image cela en prenant et Beth Yosef, le bois de la maison de Joseph, et un bois qui serait le bois de la maison de Juda, et les unifie dans sa main, pour dire ainsi Israël sera réunifié en un seul bois, en un seul arbre. Je continue. Shehaya Kolel, Aet Yehuda, le bois de Juda, qui récapitulerait, réunirait Gamken Kochoshi Yosef, aussi la force de Joseph. Et cette chose qui se cherche aujourd'hui dans la société juive, et donc israélienne en particulier, est si difficile à atteindre. Ce qu'on appelle en hébreu moderne Likoud Leumi. Les Laked, c'est pas le nom du parti Likoud, hein, puisque le parti Likoud était lui-même l'unification de plusieurs petits partis. Mais Likoud Leumi, ça veut dire l'unité de rassemblement de la nation comme nation, et non pas telle ou telle coalition de partis, par définition. Tout le monde sait que c'est là la ligne d'authenticité de l'identité juive. Mais on le sait par la pression extérieure, ça veut dire le monde entier est d'accord que tous les juifs sont juifs, qu'il soit de Joseph ou de Judas. C'est clair. Et nous sommes unis comme objet de l'antisémitisme antisioniste. C'est clair. Il n'y a que les Juifs qui sont encore en problème, mais voilà, nous dit le Rav, d'où vient ce problème. De l'origine de notre identité, qui consiste à vivre de façon exemplaire le problème de l'identité humaine tout court. De cette contrariété des deux vocations, l'identité messianique étant leur réunification. Je pense que c'est clair. Et effectivement, dit le Rav en citant un verset, quand ce bois de Juda contient aussi la sève de Joseph, si j'ose dire, alors apparaît ce verset, Yadver Amim Tartenu. Il vaincra, le fait de vaincre, on peut aussi traduire convaincre, parce que cette racine signifie à la fois vaincre et convaincre, puisqu'elle signifie à la fois battre et parler. Okay? Yadver, c'est pas Yadaber, Yadver. Yadver Amim Tartenu. Il vaincra et convaincra les peuples sous notre influence, Ulumim Tahadraglenu, là l'expression est imagée, mais vous la lirez dans la Bible, et les nations sous nos pieds, Ibhar lanut nahalatenu, il choisira pour nous notre héritage, et Geon Yaakov Asher Ahav, la grandeur, la Geon, c'est la majesté de Jacob qu'il a aimé. C'est là, ça veut dire, c'est la fin du verset. Vers l'idée kibbutz, et par le biais de cette unité, de ce rassemblement, jeté à Kochot, Yahdav, de ces deux forces en même temps, Hayush Nehem Italim, les deux s'élevaient, les deux étaient capables d'élévation. Quand Joseph est là, Judas est plus grand. Et quand Judas est là, Joseph est plus grand. Et quand ils sont séparés, l'un et l'autre tombent, descendent. L'un devient la caricature de lui-même, la confession religieuse juive, c'est la limite de caricature de Judas, et l'autre devient la limite de caricature de Joseph, le juif cosmopolite. Vous voyez à peu près le drame, la tragédie. Et ces choses sont tellement claires, et c'est toujours comme ça avec le Rav, chaque fois qu'on les a appris, on se demande comment on a vécu sans comprendre ça. Parce que c'est l'alphabet, l'ABC, si vous voulez, de notre condition d'ABC. Et je vous lis là, entre parenthèses, le texte du Rav Kook, qui éclaire la raison pour laquelle l'histoire juive a quitté la scène politique à partir du moment où elle a diagnostiqué qu'elle n'était plus capable d'être l'homme politique à la manière de David et que le risque était d'être l'homme politique à la manière d'Ésaü. Okay? Alors je vais vous trouver ce texte. Il suffit une minute. Si vous voulez noter la référence, il me semble que nous l'avons lu à un des séminaires précédents, mais je ne me rappelle plus. Alors la référence se trouve dans le livre de Orot, à la page 14. C'est le paragraphe 3 du chapitre 2. Voilà ce que je dirais quelques phrases. Azavnu est un politica olamit. Dit le Rav, nous avons abandonné. Politica, vous avez compris, la politique mondiale, mais ones sheyeshbo ratzon pnimi. Contraint, forcé, mais consenti. Avec une contrainte, mais qui avait de notre part un consentement intérieur. Et ça se réfère à quoi? Au fait que depuis le temps de la destruction d'abord du royaume d'Israël, il a été détruit le premier, ensuite du royaume de Juda, la domination de l'Empire romain dans le monde, au nom d'Israël, entre guillemets, le peuple juif quitte la scène politique mondiale. Et ça, c'est depuis très 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 longtemps, il ne revient que de notre temps. Alors le Rav dit, nous avons abandonné la politique mondiale, contraint mais consentant, « Ad asher tavo, et meusheret » jusqu'à ce qu'arrive un temps heureux chez Iyev Shah et Naël Mamlacha où il sera possible de diriger une société, le mot qui est employé c'est royaume, Mamlacha, mais ça veut dire une société, Velo Rishau Barbariout, sans méchanceté et barbarie. Zehu Azman Shanun Mekabim, c'est le temps que nous espérons, nous voilà d'avoir. Et il est évident chez Kedé et Akshim, que pour le concrétiser, le réaliser, Anutzrichim Leit Orer Bekochotenu Kulam, nous devons nous éveiller avec toutes nos forces. Ça veut dire pas seulement la force d'engagement spirituel, Judas, mais aussi et surtout la force d'engagement temporel, Joseph. Leishtamesh Becholaim Tsaim Shazman Mevi, et de nous servir de tous les moyens, des véhicules de comportement que le temps amène. Que le temps, deux, la civilisation du temps, amen. A kol yad el boré kor olami menaïret, car tout, c'est la même main du créateur des mondes qui le dirige, tout. De nouveau, nous sommes renvoyés au rappel de l'affirmation monothéiste intégrale. Le Dieu d'Israël est celui qui a créé le monde de la matière dans lequel nous sommes insérés avec nos tâches corporelles et donc nationales pures et simples, et le monde de l'esprit auquel nous sommes reliés par notre âme, et donc par notre vocation de sainteté. Vous avez compris donc le schéma. Aval, aïchur, hi, ichur, mukhrach. Mais ce retard, ça veut dire nous avons laissé Ésaü marcher devant. Vous vous rappelez le texte de la Bible? Je crois que M. Nahon l'a cité hier soir. Okay? Parce que Jacob dit à Ésaü, va devant, je te donne rendez-vous à la fin des temps. Vous vous rappelez? Moi j'irai. Pas très bien, pas exactement traduit, disons, hier soir, mais je me le retraduis. Les regel la melacha shiriti, au rythme du travail que j'ai à accomplir, moi, c'est Jacob qui parle, ou le regel la yaladim, et au rythme du pas des enfants. Et il dit, marche devant, et je te rejoindrai à Séir. Or, là je vais un peu bifurquer du contexte de M. Naon hier soir, la Gemara indique, mais il n'y a aucune parole mensongère dans la Bible. Jacob a dit, je te donne rendez-vous à Séir. Séir, c'est la montagne d'Ésaü. Okay? Et on ne voit aucune trace que Jacob et Ésaü se sont rencontrés quelquefois. Alors la Gemara répond, il faut ouvrir le prophète Ovadia pour lire, en l'avant-dernier, les derniers versets du prophète Ovadia, le verset suivant. Ve'alou moshéim ve'artion, les rescapés se retrouveront, monteront dans la montagne, sur la montagne de Sion, l'ishpot et arseir, pour juger la montagne d'Ésaü, ve'ya Hachem le melech, al-kol haaret, et Hachem sera reconnu comme roi sur toute la terre, ve'ya bayom ahou, et en ce jour-là, il arrivera, il y a Hachem Echad, Ushma Echad, que Dieu sera un et son nom reconnu comme un. Alors la Gemara dit, ce rendez-vous, c'est quand l'exil se terminera et que Israël, revenu à Sion, jugera Ésaü, jugera la montagne d'Ésaü. Ça veut dire que Jérusalem jugera Rome, purement et simplement. Or, je crois que nous y sommes. Hein? Est-ce que c'est bien? Et c'est ce que la Gemara dit. On l'a même dit, mais enfin, il ne faut jamais rentrer trop dans les détails, parce qu'en général, ils sont exacts, mais ça donne le vertige, que ce jugement a eu lieu au moment du procès d'Eichmann, qui s'est fait à Jérusalem, comme vous le savez. Subitement, 2000 ans après, eh bien, les rescapés ont jugé ce qui était arrivé dans la civilisation des hommes. Résultat du Saint-Empire romain germanique. L'orateur d'hier soir a eu raison de dire, M. Fickelkraut, je prononce bien, que l'Europe, ce n'est pas le nazisme. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ce procès-là, c'était le procès de l'Europe quand même. Quoi dans l'Europe? La légalité se substituant à la moralité. Cette idéologie, là, a été jugée au procès d'Eichmann. Vous vous rappelez de ce procès que Eichmann avait un seul souci, qu'on lui démontre qu'il avait fait une faute de métier. Faute morale, qu'on ne comprend pas. Okay? Vous vous rappelez de cela? Alors, je referme la parenthèse. Alors, dans ce contexte, finalement, le Rav cite la Gemara qui dit, nous avons donné la pourpre, c'est-à-dire la fonction de royauté à Ésaü, jusqu'au temps où l'on pourra penser un État qui soit fondé sur un projet moral et non pas sur un projet de puissance. Et tout se passe comme si le fait que cet État apparaisse, et là je vous parle en tant qu'Israélien, ça dérange les consciences de l'humanité en fait. Parce que tous les États sont fondés sur un projet de puissance, et le fait qu'il puisse agir d'autre chose, ça dérange. Et c'est pourquoi, si vous voulez, on s'arrange pour essayer de projeter l'image d'un État comme les autres à tout prix, au prix des exagérations que vous avez entendues à la radio, à la télévision et dans les journaux depuis 35 ans. C'est plus que des exagérations, des mensonges. Et lorsque on prend acte de cela, alors on s'aperçoit que vraiment nous sommes entrés dans un temps d'espérance messianique. C'est l'accouchement dans la douleur. Mais comme on dit d'une femme en couche, elle a des espérances. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je continue. Bon. Alors nous disions cela, Ve'alié des kibbutz, j'étais à Kochot Yahdav, Ayush Nehem Italim. C'est par l'unité, le rassemblement de ces deux forces ensemble. Ayush Nehem Italim, les deux s'est levé. A Koach HaHomri, la force matérielle, Aya Mit'aden ou Mit'kadesh. Mit'aden s'adoucit et se sanctifie. Nous avons lu ce mot, Mit'aden, déjà dans l'étude d'hier. Mitzad Kirbato et la Kdusha, par le fait qu'il est proche de la sainteté. Et vous vous rappelez, pour ceux qui ont étudié ces questions dans la Bible, que la Torah, a priori, demande que le tribunal siège dans la cour du temple, que le juge soit relié.